Jules Janin, maître et valet. Je me souviens encore du premier dîner que je fis à Londres. J'eus certes le temps d'entendre et de voir, ignorant de la langue que parlaient les convives, et goûtant avec précaution de leurs mets favoris. Mon rôle fut un rôle passif une grande partie du repas, et ce ne fut qu'au second service, quand se montrèrent le bel esprit des vins de France, si joyeusement annoncé par le fracas et la mousse pétillante, que je commençais à devenir à peu près un homme à jeun, avec des gens qui ont fort bien dîné. Voici mon étonnement, et je vous le donne ici, non pas comme une histoire amusante, mais comme étude des mœurs anglaises. Vous ferez de mon histoire ce que vous voudrez, ce sera plus d'honneur qu'elle ne vaut. Donc, vous voyez que ce commencement se ressent de mon embarras. J'étais assis à côté d'un gentilhomme anglais, très poli, très grand buveur et fort communicatif pour un anglais, chez lui, dans son île, sous sa charte anglaise, propriétaire, électeur, éligible, élu, celui-là était membre de la Chambre des communes. Il était très honoré de toute l'assemblée, on écoutait ses moindres paroles avec déférence. Évidemment, c'était un homme considérable, un homme hospitalier, sitôt qu'il eut essuyé le premier feu de la conversation et qu'il lui eut répondu pour sa part, il finit par m'apercevoir. Alors il me parla en français et me fit verser le premier verre de vin de champagne, si bien que nous fûmes tout de suite une paire d'amis. En général, on ne rend pas assez justice au vin de champagne. On le boit à long trait, il est aussitôt oublié qu'il est bu. On le dépense à la façon d'un peu d'esprit que l'on aurait au hasard et à tout propos. C'est surtout lorsqu'on a quitté Paris que l'on comprend bien la grâce et les divers mérites de ce cher compagnon célébré par tous les poètes. Paris est sa vraie patrie. Il s'y plaît, il est à l'aise et dans toute sa joie et toute sa puissance. Il aime les jeunes gens de Paris, les femmes de Paris, les nuits de Paris. Telle femme attend ce joli vin pour être aimable, et telle autre pour être belle. Il se mêle à leurs larmes d'amour, il donne le courage du duel et le courage du jeu, tous les courages secondaires. C'est lui qui dompte les chevaux rebelles, qui conduit les frêles Tilbury au bois de Boulogne. Il est la vie et le mouvement de nos boulevards. Sitôt que le soir est venu, il se dandine aux Champs-Élysées. Il parle, on l'écoute, il appelle, on lui répond. Fugitive espérance, orgueil d'une heure et rêve d'un instant. Hors de Paris, ce roi des bons vivants est à peine un exilé qui se souvient de ses belles humeurs, mais il s'en souvient à de rares intervalles. Et tout de suite, il retombe en sa tristesse, songeant à la patrie absente. Que voulez-vous, hélas, qu'il devienne, à plein verre et débouché par des mains inhabiles? Comment rire en ce verre épais? Ce n'est pas un vin de province, c'est un vin de Paris. Laissé de la province, le vin de Mâcon, noble et franc, libéral et frondeur, ennemi du sous-préfet et du maire. Le vin du Rhin, qui porte des moustaches et des éperons, véritable soldat, toujours prêt à dégainer. Laissé à la province, on ne s'en fâchera pas. Le vin de Bordeaux, limpide et clair comme l'eau des sources sacrées. Mais le vin d'Haï, par Voltaire, il est l'enfant parisien. C'est la joie parisienne. Il aime, il devine, il reconnaît le parisien comme je reconnais la signature de mon père quand il m'envoie de l'argent, disait un champenois de mes amis. Que de longues et douces étreintes, que de paroles d'amour, que de bonheur de se revoir, que de promesses de ne jamais se quitter. Le vin de champagne, il est notre retruchement dans les déserts de l'Afrique. Il est notre consul actif et dévoué en Orient, notre pavillon protecteur dans le vaste océan, notre riche et puissant ambassadeur dans les hautes nations. Alors je me sentis très disposé à cette naturalisation anglaise, ou si vous aimez mieux, tous ces messieurs se reconnurent français, quand ce petit humain joyeux apparut, escorté par le bouchon qui saute comme une grande dame est escortée par son coureur. À ce moment-là, nous fûmes tous compatriotes, chacun bu et parla en français. Je fus le roi du festin. Vous racontez ce qui se dit alors, je ne le saurais. D'ailleurs, ce n'est pas là mon histoire. Il faut attendre pour que mon histoire arrive, que la plupart de ces gentilshommes se retirent et que nous restions seuls à table, occupés à boire, le gentilhomme anglais, moi, et toi, mon cher et digne Offray, que cette scène digne de Sterne a fait pleurer. Nous étions donc tous les trois buvant à petits traits dans de longs verres et tenant de très sérieux discours sur toutes choses frivoles, le jeu, l'amour, les chevaux, les femmes, le politique, et enfin les deux héros poétiques de la France et de l'Angleterre, Shakespeare et Jean-Jacques Rousseau. Vous remarquez qu'il n'y a pas un Anglais qui ne parle de Jean-Jacques, pas un Français qui ne s'entretienne de Shakespeare. Quel que soit le cours d'une conversation entre Anglais et Français, il faut toujours qu'elle arrive invariablement à ces deux hommes. Cela tient à ce que nos voisins ont accueilli Jean-Jacques Rousseau persécuté, et que nous autres, nous nous sommes tout récemment soumis à Shakespeare, un demi-dieu. Nous avons présenté notre épée par le poignet. Ainsi, nécessairement, nous avons parlé de Shakespeare et de Jean-Jacques Rousseau ce soir-là. Je ne sais comment, ni pourquoi, je vins à dire à notre Anglais, qui les comparait l'un à l'autre avec beaucoup d'esprit, et qui trouvait plus d'une affinité entre ces deux génies sauvages qui éclatent et se manifestent au dehors par la pensée et par l'éloquence, comme fait un volcan. Ajoutez ceci à votre portrait, lui dis-je. Ils ont été tous les deux les humbles serviteurs de leur maître. Shakespeare a tenu les chevaux à la porte des théâtres. Jean-Jacques Rousseau a servi à table chez un grand seigneur. Je dis cela comme une chose de publique autorité. Mais jugez de ma surprise. À peine eus-je achevé cette malencontreuse proposition, que je vois la figure de notre Anglais pâlir tout à coup et devenir horriblement blême et triste, de joyeuse et rubiconte qu'elle était. Je crus d'abord que le digne homme venait d'éprouver les atteintes d'un mal subi, et je me préparais à lui porter secours, quand tout à coup il se leva de table en sanglotant. Puis d'un geste, il renvoya le valet qui nous servait. Quand il eut versé deux ou trois de ces grosses larmes honnêtes qui sortent de l'âme et qui font tant de peine à voir, « Mon Dieu ! S'écria-t-il, mon Dieu ! Que vous m'avez fait de peine sans le vouloir, monsieur ! » En même temps, il reprit sa place à table. Il appuya son front sur sa main gauche. De sa main droite, il se livrait à un mouvement convulsif par-dessus son épaule, comme s'il voulait en arracher je ne sais quoi. Nous étions là, tous les deux, le regardant bouche béante, Offray immobile et ne songeant pas à s'expliquer ce spleen subi, sinon par l'ivresse. Et moi, avec notre malheureuse littérature de bagne et d'échafaud, m'attendant à trouver un de ces êtres flétris par les lois, comme on dit, que la société rejette de son sein, dont les romans abondent, qu'on voit partout sur nos théâtres et que dans le monde on ne rencontre nulle part. Que sait-on ? J'allais peut-être entrevoir une chose que je n'avais jamais vue, un galérien en chair et en os. Mon soupçon, littéraire et dramatique, prit bientôt une grande consistance quand j'entendis l'honnête homme s'écrier en portant un regard effaré sur son épaule. « Mais ne voyez-vous rien ? Ne voyez-vous rien, messieurs ?» Et son geste convulsif allait toujours. Offray lui répondit qu'il ne voyait sur les épaules de son honneur qu'un très bel habit de très beau drap. Moi, silencieux, je pensais tout simplement que le gentilhomme s'était trompé, qu'il avait voulu dire « Ne voyez-vous rien sous mon habit, et non pas sur mon habit ?» Je me croyais très habile en ceci. Il y a des moments où l'on pousse la bêtise jusqu'à la cruauté. Cependant, le gentilhomme insistait. « Mais ne voyez-vous rien sur mon habit? Ne voyez-vous pas cette maudite aiguillette ?» Et tout à coup, remarquant mon étonnement, désappointé que j'étais de chercher une simple aiguillette sur une épaule que je croyais marquée au fer chaud. « Oui, dit-il en serrant les poings, oui, j'ai porté l'aiguillette. J'ai servi à table. Je suis un valet indigne d'être assis à vos côtés. Donnez-moi une place derrière vos sièges, messieurs, et permettez-moi de vous servir. » Loftrey prit pitié de ce digne gentilhomme et lui adressa de consolantes paroles. Moi, j'avais un bien mauvais cœur ce soir-là, bon, ce n'est pas pourtant ma coutume, mais je me disais que pour l'intérêt du drame, si l'aiguillette était un acteur moins héroïque, il était plus inattendu et plus nouveau. Et je me demandais ce que le drame allait devenir. Alors commença un vrai drame. Éloquence, colère, larmes, pitié, rires aussi, rien n'y manquait. C'était un drame à la Shakespeare, et qui n'eût pas laissé échapper, j'en suis sûr, s'il eût entendu cet homme avec tant de regrets nous traîner dans toutes les angoisses de cette condition que je lui avais rappelée avec tant d'innocence et si peu d'à-propos. Tout ce qu'il nous dit ne pourrait se redire. Il le disait avec tant d'éloquence et de douleur. J'en conviens, messieurs, j'ai porté la livrée, et je sens encore à mon épaule innocente l'aiguillette fatale que m'ont portée ni Jean-Jacques Rousseau ni Shakespeare. Hélas, je sais trop quel est ce supplice d'avoir son âme attachée au bout d'une sonnette. Vous êtes tout seul dans l'antichambre à rêver, et la sonnette à l'instant vous réveille en sursaut. La sonnette est un tyran. J'ai été l'objet de ses moindres caprices, l'instrument de ses moindres passions. » Et disant ces mots, il restait abîmé dans sa douleur. Nous voulûmes le consoler. Mais lui, reprenant cette conversation, souvent interrompue, « Oh, disait-il, me consoler, cela est impossible. Oublier le passé, je ne saurais. Mes membres se sont pliés à la livrée, ils en conservent l'empreinte. L'aiguillette pèse incessamment sur mon épaule, ma tête est presque toujours découverte. Je ne sais pas tendre amicalement la main aux gens que je salue. Quand je monte en voiture, le pied me brûle, et dans ma maison, parmi mes nombreux domestiques, s'il faut implorer un service, j'ose pas et j'hésite. Je suis maudit, oh, une tache ineffaçable est à mon front. » Et il se frappait la tête avec fureur. Alors Frey, qui est un puritain, un homme de la vieille église, voyant que cette puérile affliction n'avait pas de terme, se mit en colère et s'emporta en chrétien contre l'orgueil de cet homme qui ne pouvait pas oublier son ancienne condition et se traitait plus mal pour avoir habité une antichambre que s'il eût fait un voyage à Botany Bay. « Cela est très mal et très peu chrétien et très peu digne d'un homme raisonnable, monsieur, je vous le dis franchement. » Le gentilhomme se prit à sourire en levant cette épaule qui le faisait tant souffrir. « Oui, voilà ce que je me dis tous les jours. Ce sont de vaines paroles. Mais croyez-moi, j'ai fait tous mes efforts pour surmonter ce malheur puéril. Vains efforts. Quand je me suis bien raisonné tout le jour, quand je suis bien regretté que tous les hommes sont égaux dans l'église et dans le royaume, la nuit arrive. Alors le frisson me reprend. Je me mets au lit en tremblant et je m'endors. Mon sommeil est horrible. À peine endormi, je recommence mon métier d'autrefois. J'étais maître et je suis valet maintenant. Que de tortures, grand Dieu! Que de petites douleurs, mais plus cruelles mille fois que les grandes douleurs! C'est un rêve empreint de domesticité. Je loge dans les combles de la maison. Dès le matin, je me lève pour panser mes chevaux. L'animal bondit sous ma main, je le frotte, je le pars, et dans sa robe luisante, je vois mon visage encore tout pâli par l'éveil. À peine ce cheval vicieux est pansé, j'entends le maître qui sonne. Et bientôt le voilà sur le cheval que j'ai rendu si beau. Il va, je le suis. Il s'arrête et je me tiens à distance. Il parle et j'écoute. Il dîne avec ses amis, et moi, debout, j'entends leurs éclats de rire et j'attends leur bon plaisir. Le même rêve ainsi m'obsède toutes les nuits. Toutes les nuits, j'endosse la même livrée. Je suis un laquais, 24 heures sur 48. Et quand après ce pénible sommeil, je me réveille enfin, quand je me retrouve au lit du maître et dans sa chambre, éveillé que je suis, je tremble de voir arriver quelqu'un qui me chasse. Il me faut une heure au moins avant de m'habituer chaque matin à ma position nouvelle, avant d'appeler mon valet de chambre. Il m'attend. Il a peut-être rêvé la nuit qu'il était le maître. Oh, il est plus heureux que moi. Monsieur, me dit-il encore, écoutez une histoire horrible. Sans doute vous êtes comme moi, monsieur, et vous ne trouvez rien de plus doux au monde que d'aimer une belle femme qui vous aime, de boire un vin qui vous plaît, de tenir une épée à la main sur 6 pieds de gazon, un homme armé d'une épée, un homme que vous haïssez. Cela est heureux, on se sent vivre. Eh bien, la semaine passée, j'ai rêvé que moi, je servais à table mon rival et ma maîtresse. Pendant 2 longues heures, j'ai fait mon service, obéissant à leurs moindres gestes, écoutant leurs moindres propos, comprenant leurs moindres signes. Malédiction, malédiction, il ne se gênait si peu devant moi. Il me comptait pour si peu. Ils se huraient à leur fête comme s'ils avaient été seuls. Je les servais, mais mon cœur battait à outrance. Ils se retournaient comme s'ils avaient été inquiétés du bruit que faisait mon cœur. Ma gorge était desséchée. Ils me demandaient à boire et je leur versais à boire. À la fin de ce repas maudit, quand je voulus me venger et demander raison de son outrage à l'homme qui m'outrageait, il me demanda son épée et me fit signe de l'accompagner. Et du même pas, il fut se battre avec un autre que moi. Je restais là, tranquille, spectateur. J'étais un domestique. Je n'étais pas un homme. Ah, voilà pourtant les nuits que je passe, et voilà mes rêves. Voilà ma vie. Et le jour, je vis à peine. Le jour, pendant lequel je suis maître, je pense à la nuit qui va venir. Si je donne, honteux de moi-même, le bras à ma femme, avant peu, quand je serai son valet, elle va me traiter comme un chien, tant elle est insolente et cruelle pour ses gens. Mes amis les plus sincères, je les hais, parce que je sais qu'à la nuit tourmente, ils me feront porter un habit galonné, qu'ils me donneront des ordres et qu'il n'y aura plus devant moi un seul de ces hommes si parés, qui songe à cacher ses laideurs. Voilà encore un des malheurs de notre condition, à nous autres laquais. Nous voyons l'humanité dans ce qu'elle a de plus vil et de plus abject. Nous savons à point nommé quand nos maîtres manquent d'argent ou de courage. Nous savons quand ils pleurent. Nous connaissons leurs maladies les plus cachées. Nous mettons le doigt sur leurs plaies les plus secrètes. Ils ne se gênent pas avec nous. Pourquoi voudriez-vous qu'ils fussent des hommes pour nous? Nous ne sommes pas des hommes pour eux. Malheureux que je suis, je méprise et je hais les hommes pour les avoir vus dans toute leur nudité. Ainsi parla ce malheureux fantaisiste, avec une éloquence incomparable et que rien ne peut rendre. Au milieu de toute cette colère, il y eut des aperçus très fins et très ingénieux qui me frappèrent et qui m'échappent comme ces beaux airs du grand opéra dont on se souvient sans pouvoir en changer une note. Cependant, l'heure était fort avancée. À minuit, notre gentilhomme se leva en sursaut. « Oh, voici l'heure où je redeviens laquais !» nous dit-il. Il sonna. Un des valets de la maison entra dans l'appartement. Voulez-vous, lui dit-il très poliment, faire avancer ma voiture, s'il vous plaît? Et il sortit en nous faisant un profond salut. Restés seuls, Lafstra et moi, nous entendîmes le carrosse armoirier qui s'éloignait. Ceci est étrange, dit Lafstra. Voici un sentiment singulier et tout nouveau qui se révèle à nous mal à propos. C'est un mélange bizarre de folie et de raison que je ne saurais définir, mais bien singulier. Qu'en penses-tu, toi? Je pense, lui dis-je, puisque nous avons parlé de Jean-Jacques Rousseau, que voilà un homme qui dérange singulièrement les plus belles pages qu'ait écrit Jean-Jacques Rousseau. Son admirable déclaration sur le remords.